Moi, ma contribution à cet échange, c'est celle d'abord d'un utilisateur de l'IPC, pas d'un spécialiste. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas un expert de ces questions. Mais je suis, de par mon activité, effectivement, un des utilisateurs de l'indice des prix à la consommation. Donc mon propos relève plus du témoignage que de l'analyse des travaux de Florence notamment. Cependant, vous démontrez clairement, Florence, comment à force d'agrégats, de moyennes, d'années de référence pas neutres, d'effets qualité très mal mesurés, de postes de dépenses mal pris en compte, le logement à 8% dans le budget des ménages, quand on est parisien, ça fait un peu sourire, et qui confirme donc qu'on finit par atteindre un degré d'abstraction avec cet IPC qui permet de douter de ce que l'on cherche à mesurer et qui confirme, mais qui en doutait encore, qu'on est évidemment très loin de ce que les gens vivent vraiment ou de ce qu'ils ressentent s'agissant de leur pouvoir d'achat. La sophistication poussée à ce point, je pense, exclut toute probabilité qu'un tel indice nous parle ou parle de nous. Il dit plus de choses à qui sait les analyser, ce que vous avez fait, de celui qu'il produit, que de ceux ou celles qui sont observés. Alors, moi, ce que je voudrais apporter comme témoignage, c'est très simplement l'utilisation que nous faisons aujourd'hui de l'indice des prix à la consommation. Nous avons, je citerai trois occasions qui sont très différentes entre elles. La première, c'est depuis peu de temps, finalement, notre bureau national, c'est-à-dire l'étage de gouvernance de notre organisation, lorsqu'elle se réunit, ces débats se fondent sur ce qu'on appelle une note d'actualité revendicative qui balaye l'ensemble des sujets que nous avons dans notre champ de compétences syndicales et donc dans notre champ de revendication. Il se trouve que depuis quelque temps, nous y associons une note économique. Ça peut sembler étrange, mais ça n'a pas toujours été le cas. Or, aujourd'hui, il s'agit d'analyses macroéconomiques dans lesquelles on mentionne l'IPC parmi d'autres indicateurs. La dernière, par exemple, qui va être débattue demain, porte sur l'euro, la précédente sur les tournants actuels de l'économie mondiale, la précédente encore sur les liens sans doute à refaire entre une économie de la qualité et la relance de la productivité. Bref, ça agit comme on s'efforce de contextualiser notre action revendicative par une analyse micro, et l'inflation est bien sûr une des données que nous prenons en compte, mais sans interroger le thermomètre. Même si nous allons au-delà de l'indice pour regarder plus précisément ce qu'il fait varier, on n'a pas de débat, il n'y a pas de problématique, aujourd'hui il n'y en a plus, en tout cas s'il y en a eu dans notre organisation, il n'y en a plus sur l'IPC lui-même, même si nous avons participé il y a quelques années, notamment à des travaux autour effectivement de l'interrogation sur les indicateurs de croissance. Nous y avons pris aussi là aussi notre part. Je passe sur cette utilisation de ces grands indicateurs pour aller sur des choses qui sont plus au cœur de notre métier. Lorsque effectivement nous cherchons à éclairer nos réflexions sur nos contributions au moment de nous exprimer sur la revalorisation d'un certain nombre de prestations sociales ou de minima sociaux, là encore, nous restons lucides sur ce que reflète l'IPC et sur ce qu'il ne reflète pas. Et la CFDT, comme vous le savez, prend sa part avec d'autres dans la gouvernance d'un certain nombre de régimes, l'assurance chômage, les retraites complémentaires, et assume pleinement sa responsabilité en matière, y compris de gestion financière de ces régimes. Et lorsque nous négocions des revalorisations, on intègre la question de leurs coûts, en particulier lorsque elle pourrait suivre une augmentation mécanique. Même si la question du coût et la question donc de la bonne tenue budgétaire de ces caisses n'est pas l'unique objectif de nos propositions et de nos revendications, la situation de l'assurance chômage le démontre. Et puis troisième point, et c'est sur celui-ci que je voudrais un peu plus développer mon intervention, c'est une utilisation en matière d'évolution des salaires dans les entreprises et les branches professionnelles. C'est le rendez-vous de la négociation annuelle, la NAO, négociation annuelle obligatoire, et c'est le SMIC, dont l'IPC est le moteur principal de la progression, j'y reviendrai, qui est bien souvent pris en compte par les négociateurs. Et c'est sur cet usage de l'IPC donc dans les discussions salariales que je voudrais insister ici, parce que ça reflète assez bien à la fois la situation du syndicalisme aujourd'hui, mais au-delà de ça, la difficulté qu'il y a à parler d'un certain nombre de sujets sur lesquels je vais revenir. Donc je l'ai dit, pour nous, l'IPC n'est pas vraiment un sujet en soi, ce n'est pas une problématique. Il nous arrive bien sûr d'en critiquer les lacunes, surtout quand il n'est pas suffisant à conforter nos revendications, je dirais. Mais finalement, c'est plutôt un objet qu'on manipule avec plus ou moins d'ignorance de sa mécanique complexe, sauf une fois qu'on aura lu le bouquin de Florence, mais enfin, ça ne va pas être donné à tous nos militants. Et donc, une ignorance plutôt plus forte que moins forte, on va dire. Si je mets à part les grandes entreprises dans lesquelles les négociations salariales s'appuient sur des informations sur la situation économique de l'entreprise ou du groupe, sur les résultats, sur les projets de l'entreprise, dans la majorité des entreprises et des branches professionnelles, la NAO se nourrit presque uniquement, je force un peu le trait, mais à peine, presque uniquement de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et ou de l'évolution du SMIC, ce qui revient à peu près au même de fait. Depuis les années 80, les NAO ont perdu peu à peu de leur substance. Vous le mentionnez, Florence, dans votre ouvrage, la fin de l'échelle mobile des salaires, la montée du chômage, la désyndicalisation, synchrone avec la désindustrialisation, la tertiarisation de l'économie, tout cela a déplacé le curseur des revendications du salaire vers d'autres sujets plutôt marqués par les préoccupations sur l'emploi. Même lorsque nous avons parlé à la fin des années 90, au début des années 2000, de réduction du temps de travail, c'était bien dans l'idée d'un partage du travail qui était pensé comme une réponse à un chômage massif et, semble-t-il, irréversible. Sur les conditions de travail aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels mon équipe travaille en ce moment. Transformation profonde des modèles de production qui signe la fin du compromis fordiste, désintégration des collectifs de travail et côté syndical, je le dis, perte de savoir-faire pour conduire la négociation salariale et obsolescence des codes, des repères habituels pour mener cette négociation. On n'est plus très sûr de qui ou de quoi crée la valeur. Et surtout, la valeur créée se dilue au long d'une chaîne de donneurs d'ordre et de sous-traitants que seuls les holdings des groupes sont en mesure, sur lesquels seuls les holdings des groupes sont en mesure d'avoir une vision sur ces chaînes de valeur. Et les NAO ne se déroulent pas à ce niveau-là. Les négociateurs dans les branches et les entreprises négocient en aveugle, bien trop souvent. C'est souvent le cas aussi pour les représentants de la direction de l'entreprise, à qui la direction financière a donné une enveloppe pour la NAO, mais sans expliquer les choix qui ont présidé au montant de cette enveloppe. Quand on creuse un peu dans la discussion, dans la négociation avec les directions, on se heurte, non pas à cet aveu, parce que évidemment peu l'avoue, mais on se heurte à cette réalité qui est que nos interlocuteurs ne savent même pas pourquoi le montant de l'enveloppe atteint ce niveau, il n'est pas plus élevé, ou à quoi il correspond exactement, à quel choix stratégique dans l'entreprise il correspond. Donc la seule discussion qu'on peut avoir, elle porte alors sur la distribution de cette enveloppe au sein de la population des salariés, à qui et selon quelles modalités, les modalités de distribution de la masse salariale depuis 20 ou 30 ans ayant considérablement, s'étant elles-mêmes considérablement sophistiquées. Le salaire de base est une des composantes, c'est même encore heureux la composante principale, mais plus on monte dans la hiérarchie, plus cette composante va s'atténuer au profit de primes individuelles, de primes d'objectifs, primes de toute nature, voilà. Sur lesquelles évidemment il y a énormément d'opacité. Dans ce contexte, l'IPC est bien souvent le seul repère dont disposent les négociateurs syndicaux. L'inflation est mobilisée pour jouer comme régulation au niveau microéconomique, l'entreprise, alors même qu'elle dépend de phénomènes macro. Et l'utilisation de l'indice des prix comme instrument de régulation pose donc question et cache, à mon sens, les vrais sujets. Enfin, ce qui pour nous constitue les vrais sujets, c'est ceux du partage de la valeur créée par l'entreprise, partage de la valeur au sein des acteurs de l'entreprise, mais y compris avec tout son environnement. Je veux dire, l'entreprise bénéficie d'aide publique, son activité sans doute profite à la collectivité, toutes ces externalités positives et négatives ne sont pas du tout évaluées, ne sont pas du tout prises en compte dans cette discussion qui, pour nous, devrait, donc je le répète, porter plutôt sur une mise à jour de ces chaînes de valeur et sur un débat autour de ce partage de cette valeur. Et donc, on ignore comment, dans l'entreprise, les arbitrages sont opérés entre l'investissement, la rémunération du capital et celle du travail. De la reconnaissance du travail et pas seulement par sa rémunération. En ne disposant que de l'IPC, nous sommes enclins à nous focaliser sur un des enjeux de la négociation salariale, la défense du pouvoir d'achat, et de délaisser l'autre, le partage de la valeur et la juste rétribution de la contribution du travail à sa création. Pour nous, ces débats devraient alimenter un dialogue qui ne peut plus être seulement social, mais un dialogue que nous voulons économique et social. sur les stratégies adoptées par les décideurs, sur la place du travail et du travailleur dans le projet, de la performance, dans le projet et dans la performance de l'entreprise. Nous revendiquons une place plus importante des salariés dans la gouvernance de l'entreprise, pas seulement au niveau du conseil d'administration, même si nous revendiquons plus de place pour les administrateurs salariés. Ce n'est pas forcément à ce niveau-là que c'est le plus important, mais nous pensons que les institutions représentatives du personnel devraient être investies d'un rôle beaucoup plus important sur l'analyse de la situation économique de l'entreprise. Le dialogue entre les parties constituantes, ce que nous appelons non plus seulement les parties prenantes, mais les parties constituantes de l'entreprise, ne peut plus se résumer aux conséquences sociales de choix économiques et stratégiques sur lesquels les salariés ne pèsent pas. L'IPC et les débats qui l'entourent font écran, je le dis de manière peut-être un peu provocatrice, mais font écran à ce que nous considérons comme les sujets cruciaux qui devraient être débattus dans les entreprises. L'IPC ne nous pose pas problème, et peut-être le devrait-il. C'est son usage excessif et exclusif sur le reflet, exclusif qui reflète l'affaiblissement de la négociation salariale. On retrouve cette difficulté de concilier la défense du pouvoir d'achat et la juste rétribution du travail dans les débats sur le SMIC. Mais bon, on me demande de conclure, donc j'y reviendrai peut-être par la suite. Mais on retrouve cette même difficulté à concilier ces deux attentes que sont la préservation du pouvoir d'achat et la juste rétribution du travail. Alors, je vais conclure juste par ce que j'avais prévu de dire en introduction, mais qui est finalement plutôt une conclusion. Vous dites, Florence, et vous démontrez à quel point l'IPC est un construit macroéconomique, une fiction statistique, avez-vous dit, qui ne doit, et je pense que je partage complètement ce point de vue, et je pense qu'on ne devrait jamais ignorer la confrontation des logiques. L'IPC ne devrait jamais être un arbitre dans la confrontation des logiques. Il ne devrait jamais échapper à la délibération et entraver la recherche d'un compromis. C'est ça la politique. Il ne faut pas oublier que l'IPC n'en est qu'un thermomètre. Il ne faut pas donner la vérité du traitement au thermomètre. Voilà. De quoi voulons-nous que les indicateurs macroéconomiques soient les outils? Pour quels objectifs? Pour quelle politique?
Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Donc, je voulais d'abord dire à quel point ça m'a beaucoup intéressé de lire l'ouvrage. Mais en fait, il y a un an et demi déjà, on avait eu une discussion à ce propos, parce que j'avais écouté l'intervention de Florence à la FEP sur ces questions-là. On avait discuté, ça m'avait interpellé sur mon propre champ de recherche, qui est celui des marchés, des prix agricoles et alimentaires. Alors d'abord, c'est un ouvrage, je trouve, qui montre de façon très pertinente, très fouillée, l'intérêt d'analyser le changement institutionnel, non pas comme un produit simplement de l'efficacité économique, mais comme produit de compromis socio-politiques. Et en ça, alors tu n'y fais pas directement allusion, tu fais allusion à Desrosières, mais je pense que voilà, ça s'inscrit clairement aussi dans la lignée de l'institutionnalisme historique et de l'approche régulationniste, et de ceux qui ont analysé les formes d'État de Delorme, André, Boyer à aujourd'hui, Amable ou Palombarini, tous ces travaux qui montrent que ces formes d'État sont des produits des compromis sociopolitiques. Et alors un autre grand intérêt de l'ouvrage, c'est évidemment d'ouvrir la boîte noire de l'appareil statistique. Alors j'en profite pour faire allusion à des travaux qu'on a en ce moment avec l'INRA et l'IRES sur justement les statistiques agricoles et en quoi justement ces statistiques agricoles sur le travail agricole tendent à masquer à la fois l'ampleur et la précarisation du travail agricole et en quoi c'est justement un compromis, en tout cas c'est ce que tente en ce moment de montrer un travail de thèse, en quoi c'est justement un compromis politique entre l'État en fait et une partie de la profession agricole. Et je pense que ça fait vraiment écho aux travaux que tu réalises là sur l'IPC. Alors je retiendrai, moi c'est vrai que j'ai retenu une phrase qui me semble extrêmement importante dans ton ouvrage, qui est celle-ci, et que tu as redit dans ton intervention, qui est que l'histoire de l'indice des prix est celle d'un tiraillement entre conflit de convention de représentation de la richesse et de répartition de la richesse. Alors moi je vais m'intéresser dans ma présentation, enfin dans la discussion, à la répartition de la richesse. Et en particulier, alors non pas tant à la répartition de la richesse au sein de l'entreprise, mais entre entreprises, parce que c'est un débat qui est en train de monter très fortement Alors entre entreprises, je dirais juste du producteur du producteur agricole au consommateur de biens alimentaires, parce que c'est un débat qui monte vraiment en puissance aujourd'hui, pour plusieurs raisons que je vais expliquer très brièvement. Et donc c'est aussi toute l'analyse entre l'évolution d'une part des prix agricoles payés aux producteurs agricoles et l'évolution des prix alimentaires. Et finalement, qu'est-ce que ça traduit en termes de répartition de la valeur ? Alors, très rapidement, c'est pour vous montrer pourquoi aussi ça fait autant débat aujourd'hui, en tout cas ça commence à faire débat, et pourtant il y a peu de travaux scientifiques là-dessus, nous, dans le domaine de l'économie agricole et rurale, ça commence. Enfin, il y en a eu, et il y a eu une absence ensuite, et ça reprend en ce moment. Pourquoi toute cette interrogation ? D'abord, là, sur longue période, c'est pour vous montrer l'évolution des prix agricoles. Alors, j'ai pris le lait de vache et puis le blé. En France, et vous vous rendez compte à quel point en fait ces prix agricoles ont dégringolé, bon, de la moitié sur le lait à presque un tiers, même le cinquième, des prix cinq fois moins importants des prix réels sur le blé. Donc la question qui se pose vis-à-vis de ça, c'est finalement qu'est-ce que ça traduit ? Alors ça traduit évidemment un énorme gain de productivité du travail. Hein. On produit en gros deux fois plus de blé, par exemple, avec quatre fois moins de travailleurs agricoles. Ça conduit à la destruction massive d'emplois agricoles, qui ne cesse hein, d'ailleurs aujourd'hui de diminuer. Des revenus agricoles qui ont très peu en fait augmenté en moyenne, et même des périodes où ils ont diminué en valeur réelle. Une dépendance très forte des producteurs agricoles aux aides publiques, qui couvrent presque la totalité du revenu national agricole. Donc au moins, on se pose cette question, c'est est-ce que cette baisse des prix agricoles payés aux producteurs bénéficie aux consommateurs ? En termes de pouvoir d'achat, mais aussi en termes de niveau de vie, de qualité de vie, de santé, etc. Et c'est un débat qui est relancé en ce moment. Pourquoi ? Parce que vous le voyez sur les 10 dernières années, eh ben, c'est des prix qui sont de plus en plus volatiles, qui sont payés aux producteurs agricoles de plus en plus volatiles. Pourquoi ? Parce qu'on a dérégulé les marchés agricoles. Vous savez, la politique agricole commune qui est démantelée en termes de régulation de marché depuis les années 90-2000. Et ça se voit très très bien sur l'évolution de ces prix. Alors une autre courbe très intéressante, c'est celle-ci. C'est cet écart grandissant entre d'un côté ce prix des produits agricoles à la production. Alors évidemment, il faut tout mettre en valeur réelle, sinon on ne comprend rien. L'évolution des prix agricoles à la production et l'évolution des prix des produits agroalimentaires à la consommation. Là, c'est assez clair. Alors c'est repris par des chiffres des chambres d'agriculture, c'est pas pour rien hein, que les chambres d'agriculture travaillent là-dessus, puisque c'est les représentants de la profession agricole. Et alors on pourrait se dire en positif que les produits alimentaires, quand on regarde les dépenses des consommations des ménages, les produits alimentaires sont passés d'à peu près 35%, enfin un tiers des dépenses des ménages, à 20% aujourd'hui. Alors déjà, c'est là que c'est intéressant de déplacer le ménage moyen, parce qu'en fait, cette part, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui pour les classes les plus défavorisées que pour les classes favorisées, puisqu'on est dans un produit de première nécessité. Et on peut aussi s'interroger à quel autre secteur ça a bénéficié, parce que, en fait, ces prix des produits agroalimentaires, ils restent stables en valeur réelle, mais comme le revenu réel a augmenté, forcément, sa part diminue. Et donc, à quels autres secteurs ça a bénéficié ? Alors, on pourrait parler du logement, et de sa sous-estimation dans la part dans l'IPC, etc. Bon, mais ça, ce n'est pas mon sujet. Là, je vais m'intéresser surtout au partage de la valeur au sein de la filière agroalimentaire. Voilà. Et donc j'arrive avec cette question. Comment expliquer donc l'écart grandissant entre prix payés aux producteurs agricoles et prix à la consommation des biens alimentaires ? Et là, quand vous réfléchissez, moi j'ai eu l'occasion, parce que j'ai travaillé notamment sur le secteur laitier pour le ministère de l'Agriculture, pour des programmes de recherche pour le ministère de l'Agriculture, donc j'ai eu l'occasion d'assister au débat avec des représentants professionnels agricoles, mais aussi de l'industrie agroalimentaire, Lactalis, etc., sur pourquoi cet écart grandissant. Alors évidemment, ce que vous annonce le discours officiel des entreprises de transformation de distribution, alors la première action, c'est quand même, c'est pas ma faute, c'est la faute de la distribution quand on est transformation et vice-versa. Hein. Alors, deuxième argument, c'est la qualité des produits et des services associés. Bah oui, effectivement, bah, depuis 30-40 ans, et en particulier depuis 10 ans, on élabore, on assemble beaucoup plus, on conditionne. Il y a plus de logistique, de sécurité sanitaire, de publicité, de marketing. Donc oui, c'est normal que, eh bien, on capte une part de la valeur ajoutée plus importante au niveau de l'aval. Alors évidemment, déjà, on peut quand j'ai lu le bouquin de Florence, évidemment, ça amène directement à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction possible avec le niveau de vie? Déjà, parce que des plats plus parce qu'une grande partie de cette hausse de cette dite qualité des produits, c'est en fait des plats plus transformés, plus riches en sucre, en graisse, en additifs alimentaires, en produits phytosanitaires, etc. Et par ailleurs, ça renvoie quand même à la question aussi des classes sociales, parce qu'aujourd'hui, ce que disent les rapports, les différentes études sur les modèles alimentaires, c'est qu'il y a une différenciation de ces modèles alimentaires très liée aux classes sociales. Parce que le bio, les produits frais, ultra frais, les produits de saison, moins carnés, moins transformés, etc. Mais en fait, c'est quand même réservé à une classe socio-culturelle très définie, en fait. Hein. Et qu'en fait, les plats qu'on paye plus cher parce qu'ils sont plus transformés, plus sucrés, etc., c'est une autre classe sociale, en général, plus défavorisée. Donc déjà, ça pose la question du dépassement de ce ménage moyen dans la prise en compte des prix alimentaires. Et alors, évidemment, on peut avancer une deuxième raison à cet écart grandissant, c'est celui des valeurs ajoutées plus importantes des entreprises de l'aval en lien avec leur concentration. Ça, les filières agroalimentaires, on est dans des filières déséquilibrées quelque part à l'extrême. Je prends le secteur laitier, il y a 65 000 producteurs de lait en France. Il y a 5 grandes entreprises de transformation, dont une, Lactalis, qui est numéro 1 des produits laitiers mondiaux, qui fait un quart de la collecte laitière. 5 grandes centrales d'achat, qui fait l'essentiel des ventes de produits d'achat produits laitiers. Et puis, 65 millions de consommateurs. Évidemment, producteurs-consommateurs sont par ailleurs très mal organisés entre eux, et en plus, pas aidés pour ça, en tout cas du côté des producteurs agricoles, par le droit de la concurrence européen, puisqu'on leur dit « vous n'avez pas le droit de vous organiser plus que ça ». Donc, évidemment, ça pose la question du partage de la valeur ajoutée. Et alors, il y a ce graphique intéressant. Le problème, c'est que moi, évidemment, je n'ai pas pu le faire sur... J'ai pu faire l'évolution des valeurs ajoutées sur l'agriculture et sur les industries agroalimentaires sur long terme. C'est évidemment pas faisable de décomposer sur les produits agroalimentaires vendus par la grande distribution. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'en fait, il y a eu une hausse de la valeur ajoutée jusque dans les années 90-2000. L'hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on sent, hein, et je vais, en fait, c'est plus que senti, je vais vous le montrer, c'est que c'est notamment la grande distribution aujourd'hui qui capte en fait la valeur ajoutée sur les produits alimentaires. Donc c'est une grande question qui se pose aujourd'hui, quid de cette grande distribution. Alors, il se trouve que le débat était tellement vif depuis les années 2000, en lien avec la dérégulation des marchés agricoles, etc., tout ce que je vous ai raconté, qu'il y a eu la création, la mise en place de ce qu'on appelle un observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires porté par le ministère de l'Agriculture depuis 2010, et qui s'intéresse plus précisément à la... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, j'en ai pas le temps, mais des mesures, mais qui s'intéresse à la répartition de la valeur ajoutée au sein de ce qu'ils appellent la chaîne de commercialisation des produits alimentaires. Ce qu'on observe, hein, clairement, c'est que la valeur ajoutée agricole, en fait, ne représente aujourd'hui que moins de 10% dans ce qu'on appelle l'euro alimentaire, c'est-à-dire que la valeur ajoutée induite en agriculture par la consommation alimentaire, ça n'est plus que 10%. Hein, le reste, c'est notamment les industries d'aval, la grande distribution. Alors on compte aussi les imports, dans cette méthode-là. En tout cas, c'est beaucoup moins que la valeur ajoutée induite à l'aval. Hein. Alors, par rapport à toutes ces questions-là, pour vous dire à quel point c'est d'actualité, alors d'abord, ce qu'on observe sur ce graphique, hein, c'est cette fameuse valeur ajoutée induite par branche par ce fameux euro alimentaire, c'est quand même que y a une chute. Alors depuis 1999, alors ils n'ont pas pu le faire avec la restauration par ailleurs, donc c'est sous-estimé, hein, la captation par l'aval, parce qu'il n'y a pas la restauration dedans. Mais ce qu'on voit quand même, c'est une chute, vous le voyez en bleu foncé, de la valeur ajoutée dans l'agriculture induite. Et par contre, il y a une forte valeur ajoutée induite, enfin de plus en plus forte dans la distribution, vous le voyez, dans les commerces, qui est par ailleurs sous-estimée, parce qu'il n'y a pas la restauration et on sait que ça augmente encore beaucoup plus. Et puis les industries d'aval, c'est ce qu'on présentait avec les courbes précédentes, qui en fait restent à un niveau relativement constant, mais évidemment, il faudrait regarder ensuite entre entreprises de l'aval, entre notamment les PME et les plus grandes entreprises de l'agroalimentaire. Et alors, tout ce débat-là, je fais finir parce que je suis déjà longue, tout ce débat-là a donné lieu en fait à une loi qui est sortie cette année, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la loi Egalim. Comme beaucoup de lois d'ailleurs, qui a été édictée suite à un discours de Macron à Rungis, qui disait « mais c'est insupportable les prix payés aux producteurs agricoles, on va vous payer le juste prix, donc loi Egalim, et on va prendre en compte davantage les coûts de production dans les prix qui vous sont proposés par les industries d'aval, avec l'hypothèse que ça n'augmentera pas les prix alimentaires. » D'abord, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a plus d'encadrement direct des prix et des marges. Et en fait, ce qu'on a fait dans cette loi, c'est de le laisser à la bonne volonté des interprofessions et des acteurs privés. Donc, ça ne marche pas, en fait. En tout cas, pour l'instant, on n'en voit pas vraiment les répercussions concrètes. Alors, il y a une autre façon de s'y prendre, c'est d'encadrer les fameuses reventes à perte dans la grande distribution en se disant que ça allait retomber sur les prix aux producteurs, ça allait augmenter les prix aux producteurs agricoles puisqu'on allait empêcher la pression sur les prix alimentaires à la baisse. Le résultat, c'est qu'à la fois, les représentants des consommateurs sont mécontents parce que ça augmente les prix alimentaires et par ailleurs, les producteurs sont mécontents parce que ça ne retombe pas sur leurs prix. À eux, producteurs agricoles. En fait, ce que ça signifie, ça veut dire que d'avoir lâché toute la régulation des marchés, des prix agricoles et de l'encadrement des marges, contrairement à ce que font d'ailleurs beaucoup de pays agricoles, notamment les États-Unis ou le Canada, sur beaucoup de secteurs agricoles, nous, on a lâché ça en Europe et qu'on n'arrive plus, dans un secteur comme l'agroalimentaire, à finalement avoir un partage de la valeur qui soit juste du consommateur au premier producteur de biens. Et puis, je finirai juste sur le débat entre Charles-Édouard Leclerc et Serge Papin. Donc Leclerc et Papin, c'est le PDG de Super U. Ancien. En gros, d'un côté, il faut baisser les prix alimentaires pour le pouvoir d'achat parce que. On s'en fout de tout ce qui se passe, on s'en fiche de tout ce qui se passe jusqu'aux producteurs agricoles, mais enfin, il faut absolument baisser les prix alimentaires. Et Serge Papin, dont le discours est super de manière générale, il faut accepter cette hausse des prix alimentaires au nom du consommateur. La conclusion, c'est quand même, c'est qu'aucun des deux a jamais ne pose la question de partage de la valeur ajoutée entre maillons de la filière et jusqu'aux producteurs agricoles. Voilà, je m'arrête là. Merci.
Merci. Je donne la parole à Pierre Concialdi, qui est chercheur à l'IRES.
Merci pour l'invitation et merci à Florence
pour ce livre. Comme l'a dit, puis moi, c'est ce que je lui ai dit en fait en arrivant, c'est le bouquin que je vais garder souvent à côté de moi, que j'aurais bien aimé avoir depuis longtemps et que voilà sur cette question-là. Donc le temps est compté, c'est parti. La première chose que je voudrais dire, c'est vrai de tous les indicateurs, mais alors en plus lorsqu'il est pris dans de nombreux débats, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur statistique qui soit pertinent dans l'absolu. On peut toujours rechercher quelque chose de cet ordre-là, mais dans le monde de la statistique, on est toujours pertinent par rapport à une question qu'on se pose. Et pas par rapport à la beauté de la construction statistique d'un indicateur, par exemple. Et donc l'IPC est très révélateur de ça, c'est-à-dire que, ça a été dit, mais ça sera un peu le point de départ, puisque c'est un indice qui essaye de mesurer les prix, avec toutes les difficultés, je ne vais pas y revenir, mais qui ne mesure pas le coût de la vie. Sauf que cette question du coût de la vie, il se trouve qu'elle intéresse quand même un certain nombre de gens. On le voit bien aujourd'hui, par exemple, depuis un certain temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut mobiliser cette information pour répondre, par exemple, à cette question. Est-ce que ça va être un peu mon point de départ. Et donc là, je partirai un petit peu d'un épisode dont a parlé Florence, c'est-à-dire la construction de l'indice CGT. En résumé, et là, bon, il y a de nombreuses personnes qui sont bien plus qualifiées que moi pour parler de cette histoire, mais moi, ce que je retiens, c'est que il n'y avait pas d'un côté la vérité de l'indice INSEE et de l'autre côté la vérité de l'indice CGT. La coexistence des deux a permis de mettre en débat cette question qui est qu'en mesurant les prix, eh ben, on ne mesure pas nécessairement l'évolution du coût de la vie. Est-ce que c'était un, deux points? Je ne dirais pas peu importe, c'est évidemment très important pour les gens, mais la coexistence des deux, de cet indicateur alternatif, permet de mettre cette question au débat, et c'est ça le plus intéressant. De la même façon qu'à une époque aussi, la CGT a publié une statistique des privés d'emploi, il ne s'agit pas de se substituer cette statistique à celle des chômeurs au sens du BIT, etc., mais ça révèle, ça met dans le débat public une question qui est que, eh ben oui, en suivant juste les chômeurs au sens du BIT, on passe à côté d'un phénomène social majeur. Voilà. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, je pense, de cette controverse. Le deuxième épisode sur lequel je voudrais m'appuyer très rapidement, c'est celui du passage à l'euro dont parle Florence dans son livre. À l'occasion de ce passage, l'INSEE a produit des travaux qui, à mon avis, sont assez intéressants, et notamment deux choses. Le premier, c'est des indices de prix catégoriels, et le second, c'est un indicateur de ce qu'on appelle dépenses contraintes. En fait, il faudrait mieux parler de revenus plus ou moins arbitrables, enfin, j'y reviendrai. Le premier, c'est assez intéressant parce que quand on regarde comment évoluer l'indice des prix pour les plus bas revenus et pour les plus hauts revenus, eh ben, on constate qu'au moment du passage à l'euro, un peu avant, en fait, ça a démarré quand l'euro a consonné les marchés financiers, en fait, hein, deux ans avant, entre 1998 et 2005, eh bien, on a un décalage de 4 points qui s'est creusé entre l'inflation, ou les prix mesurés pour les plus bas revenus, qui a augmenté 2 points de plus que l'inflation moyenne, et inversement pour les 10% de plus hauts revenus. Et ça me semble être une information qui est utile pour comprendre un certain nombre de choses. On a beaucoup insisté à cette époque sur l'inflation perçue, etc. Il me semble que c'est plus intéressant de regarder ce phénomène-là pour comprendre les réactions qu'on peut avoir un certain nombre de gens à cette époque. Et je vais aller très très vite encore. Donc les dépenses contraintes, oui, les dépenses contraintes. Alors c'est une définition évidemment conventionnelle, le terme même n'est pas sans doute pas très bon. Et ça permet de saisir un petit peu ce qui est pré-engagé dans les dépenses des ménages, c'est plutôt ce terme d'ailleurs que retient l'INSEE, et là on voit que cette part augmente, ce qui fait qu'on peut aussi comprendre les réactions des ménages qui sont peut-être plus sensibles à ce qu'il leur reste finalement une fois payés les loyers, les factures, etc., au bout du mois par rapport à leur consommation. Donc je pense que voilà, il ne faut pas prendre l'IPC comme quelque chose qui serait qui permettait de tout comprendre. En revanche, ça permet d'avoir quelques éclairages complémentaires. Et je vais en apporter un dernier, justement, sur le coût de la vie. Il me reste quand même un peu de temps. À partir de ce qu'on appelle les budgets de référence. Donc, les budgets de référence, c'est un indicateur qui a été produit par l'OMPES il y a déjà quelques années. Je vais très, très vite sur la méthodologie, qui est assez lourde. Hein. On réunit sur un horizon d'un an, un an et demi, même plus, des groupes de discussion qui définissent la liste très concrète du panier de biens et services qui est nécessaire aujourd'hui pour avoir un niveau de vie minimum décent. J'insiste là-dessus, c'est l'objet principal de la discussion, c'est-à-dire qu'on ressort de ces discussions avec il faut une table, 6 chaises, un canapé de telle qualité qu'on renouvelle, etc. Il faut du dentifrice, une brosse à dents, etc., etc. C'est l'objet de la discussion. Évidemment, après, tout le monde s'intéresse aux chiffres, donc les chercheurs valorisent, en fonction de ce qu'ont dit les gens, ce panier. C'est-à-dire qu'ils mettent des prix sur le canapé IKEA qu'on renouvelle tous les 5 ans. Etc, etc, etc. Et on aboutit à un chiffre, et c'est ce chiffre qui nourrit le débat. Moi, je voudrais juste insister sur une chose. Je comprends qu'on soit attiré par les chiffres, hein, et je serai le dernier à dire qu'il ne faut pas de chiffres. En revanche, il y a une richesse dans ces discussions qui n'est jamais restituée. C'est-à-dire que les personnes qui sont réunies, elles argumentent. Hein, ce n'est pas un consensus d'opinion qu'on recherche. C'est pourquoi il faut telle chose de telle qualité, etc., etc. Et tout cet argumentaire est très, très riche et nourri. Enfin, ça répond un peu à la question que se posent peut-être certains statisticiens d'INSEE sur la nécessité d'un portable, etc. Parce que ces discussions-là, elles ont lieu dans les groupes de discussion. Et on voit très bien les arguments, l'évolution des comportements, etc. Il y a un autre phénomène que révèlent ces discussions, c'est les contraintes d'offres. Il y a des groupes de discussion qui ont été, les premiers budgets ont été faits en ville moyenne et d'autres ont été ensuite réalisés en zone rurale. Les résultats ne sont pas encore publiés, mais qualitativement, bah, les gens disent des choses assez évidentes, hein, c'est-à-dire que pour se loger, bah, quasiment comme il n'y a pas d'offre de location, hein, encore moins sociale, et bah, il faut être propriétaire d'une façon ou d'une autre. Pour la garde d'enfants, bah, il n'y a pas crèche ou très peu d'offres de crèche. Donc le seul moyen pour les familles qui ont des enfants en bas âge de faire garder leurs enfants, c'est d'avoir recours à quelque chose qui est plus coûteux, c'est-à-dire une assistante maternelle, etc. etc. Donc ces contraintes d'offres, elles sont aussi, elles font aussi partie du coût de la vie. Hein. Et effectivement, ce n'est pas l'objet de l'IBC de les mesurer. En revanche, on peut les restituer, encore une fois, de façon qualitative à travers cette démarche des budgets de référence. Alors maintenant, les chiffres, puisque tout le monde s'intéresse aux chiffres... des budgets référence, ils ont été établis, ils ont été publiés il y a environ 5 ans, ils n'ont pas été actualisés. Bon, donc vous allez me dire, j'ai rien à dire sur les chiffres, mais si quand même, parce que cette démarche, elle s'inspire d'une démarche pionnière des chercheurs britanniques qui, eux, ont réalisé ces mêmes budgets depuis 10 ans, depuis 2008. Et donc là, on peut très bien, c'est aussi un des usages qu'on peut faire dans la durée de ces budgets, regarder la différence, le décalage qu'il peut y avoir dans l'évolution du coût de ces paniers de biens et services et l'évolution de l'indice des prix. Il y en a plusieurs, comme le Monde Florence, il y a un débat là-dessus au Royaume-Uni, qu'on utilise généralement. Et ce bilan sur 10 ans, il est assez clair. Dans toutes les configurations familiales étudiées, puisque ces budgets sont établis pour une situation familiale donnée, pour des besoins donnés, une famille de deux enfants, un retraité isolé, etc., pour toutes les configurations familiales, on a un décalage positif dans l'évolution du coût de ces paniers qui va de 4 à 10% de 4 à 10% pour des familles et qui peut atteindre 18 à 20% pour les retraités. Donc l'intérêt, c'est de révéler ce décalage, évidemment. Après, on peut analyser pourquoi, quels sont les postes, etc. Mais je pense que c'est déjà un premier indicateur intéressant. Et puis alors, malgré tout, on parle souvent de dommages collatéraux. Là, il y a un bénéfice collatéral de la publication des budgets de référence de l'OMPES. C'est, enfin, en tout cas, je l'espère, c'est qu'on redécouvre les budgets de l'UNAF, dont parle très brièvement Florence dans son livre. Mais il faut savoir que ces budgets types, enfin, l'UNAF, c'est donc l'Union nationale des associations familiales. L'UNAF était associée aux commissions qui, au début des années 1950, se sont réunies pour essayer de définir justement un budgétif qui devait servir de base à la définition du niveau d'un salaire minimum de l'époque. Ces discussions ont achoppé, mais l'UNAF, depuis 1952, année après année et même au moins le mois, puisque ces indicateurs sont actualisés au moins le mois, des budgétifs pour une variété de plus en plus grande de situations familiales. Au début, il y avait la famille type dont parle Florence, c'est-à-dire le ménage, je vais aller vite là, ouvrier avec deux enfants, et puis ça s'est élargi à d'autres configurations. Et donc moi, je me suis livré, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques semaines, à une analyse de ces chiffres en évolution. Que nous disent-ils, hein, finalement, on peut prendre ces budgets INAF comme un indice du coût de la vie. Hein, il y a un panier. Et puis, il est actualisé en fonction des indices de prix élémentaires de l'INSEE. Et puis, ça donne une évolution de ce panier. Et on le regarde, comment ça a évolué par rapport à l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la période 2000-2018, on a un écart positif pour la plupart des familles de 9 à 10%, 9 à 10 points. Voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est que... en fait, quand je dis 2000-2018, c'est parce qu'il y a des changements de base dans ces budgets. Donc, j'ai pris la base 2000, etc. En fait, le décalage, il apparaît très clairement à partir de 2008, depuis seulement 10 ans. Quand on remonte encore un peu plus dans le temps, ce qui est intéressant, c'est de constater que, en fait, cette augmentation, 2008, donc 2018, hein, elle tranche très nettement avec ce qu'on a observé depuis 20 ans. Entre 88 et 2008, il n'y avait quasiment pas de décalage entre la variation de l'IPC et celle du coût des budgets UNAF. Donc on a vraiment une rupture, bon, qui permet peut-être de comprendre un certain nombre de phénomènes. Non, presque. Ah oui, j'ai presque terminé. Non, mais je boucle un peu sur la CGT. C'est-à-dire que c'est pas tellement étonnant que la CGT ait arrêté. Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse. Ait arrêté son indice CGT en 98 parce que c'était depuis 10 ans. Finalement, il n'y avait pas trop. Alors, évidemment, l'écart était faible, mais il n'y avait pas trop de décalage par rapport à ce coût de la vie. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est une approche complémentaire qui se nourrit de l'IPC, parce qu'on ne peut pas faire ce genre de calcul sans avoir l'IPC, mais qui permet de comprendre d'autres phénomènes ou de les analyser de façon complémentaire. Voilà, j'arrête. Ah, le niveau du budget minimum. À l'époque, mais bon, ça faudrait rajouter quelques pourcents. Pour un célibataire tout seul, c'était 1500 euros, parce que c'est le chiffre qui parle le plus. Évidemment, c'est pas la même chose pour une famille avec deux enfants, mais c'est oui. À l'époque, on avait chiffré aussi que pour le salaire net d'activité qui permettait d'atteindre ce budget, grosso modo, c'était 40% de plus que le SMIC.
Donc je remercie Florence, et, parce qu'elle voulait absolument que je lise son livre, donc du coup je pense qu'elle m'a invité, comme ça elle est sûre que je l'ai. Oui, alors je parlerai pas véritablement de l'IPC, mais plutôt enfin, de la façon dont elle a pensé le livre, parce que bon, ce livre, bon, il transpire du Desrosières, ça c'est clair, ça, très, très largement, notre regretté ami aurait été ravi d'être présent à ma place, je pense. Mais pourquoi ? Parce que derrière ce travail sur l'IPC, c'est au fond quelque chose qui, effectivement, lui ressemble beaucoup. C'est sa manière d'aborder les sciences sociales, l'économie, les sciences sociales et le positionnement du même coup de ces sciences sociales. C'est aussi bien évidemment quelque chose qui m'intéresse et qui nous intéresse, en particulier au CNIS, au Conseil national de l'information statistique, parce que nous sommes aussi confrontés au rôle des grandes sociales, des sciences sociales, justement dans l'analyse qu'elles peuvent nous aider, qu'elles peuvent faire du monde actuel. Parce que bon, penser l'avenir, c'est bien beau, mais faut-il le rendre intelligible ? Et le rendre intelligible, ça passe effectivement, en l'occurrence par les sciences sociales, ça passe par des données, ça passe par des statistiques. Donc c'est, là, il y a quelque chose de tout à fait singulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle nous rappelle des choses qui sont certes évidentes, mais qui méritent d'être creusées. C'est pour ça que je regrette très profondément que le livre ne soit pas plus épais. C'est effectivement tout ce travail qui nous restitue le positionnement de l'État, la production même de l'État et ce qui se passe effectivement au niveau de l'État dans ses relations avec, bien évidemment, les syndicats, les forces vives historiquement, mais tous les acteurs associatifs, etc., dont on voit aujourd'hui à quel point ces acteurs intermédiaires sont de plus en plus faibles. C'était une caractéristique historique de l'État français, et je dois dire que là, on se consolide. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en plus, en France, il est bien évidemment question de l'INSEE, c'est assez naturel, c'est que historiquement, nous avons un monopole historique, justement, de production de statistiques qui est tenu par l'INSEE. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus complexe, j'aurai l'occasion d'y revenir. Parce que ce qui est en jeu, c'est que l'INSEE, pour utiliser le langage de la théorie des organisations, est un marginal séquent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est à la fois lié à ceux qui gouvernent, il est lié à un gouvernement qui lui demande éventuellement des choses. Et puis d'un autre côté, ils font un travail de recherche. C'est que on est des chercheurs. Il faut comment on transforme une demande dans une réalité statistique, etc., etc. C'est-à-dire comment il y a une activité de transformation qui est propre à l'INSEE et qui est une activité assez classique au plan scientifique. Les sciences sociales. Et alors ça renvoie aussi aux questions évoquées par Florence. C'est que le propre des sciences sociales, c'est la problématisation. C'est quelque chose, je me souviens, quand j'étais conseiller scientifique au plan, je travaillais sur les questions d'évaluation, j'étais le conseiller qui faisait le lien entre le plan et les dispositifs d'évaluation. C'était assez étonnant de voir le nombre de personnes qui ignorent ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les sciences sociales, j'ai été obligé de faire une note au commissaire au plan pour rappeler quand même un certain nombre de choses qu'on aurait dû savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, on problématise, et on le voit très bien à travers justement les questions de consommation, de qualité, etc. Vous allez effectivement discuter, on peut discuter ou ne pas discuter si on nous l'impose, mais il y a toujours plusieurs manières de regarder les choses. Et cette pluralité de regards va se transformer, effectivement, se traduire dans une activité scientifique de problématisation. C'est-à-dire comment on passe d'une question empirique à une question de recherche. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'aurais aimé en savoir plus, si vous voulez, sur ces questions-là, parce que ce qui est en jeu, c'est comment, en fait, l'INSEE transforme, ou les statisticiens, pour anonymiser, les statisticiens transforment une question qui est naturellement une question politique, comment ils transforment ça en question de recherche. C'est ça qui est important. Qu'après, il y ait des problèmes de nature méthodologique et technique, c'est évident. On sait très bien que, dès lors, on le voit très bien quand on passe à des questions concernant la valeur de quelque chose, la dimension effectivement subjective de la valeur, de la qualité, etc. On voit bien évidemment que c'est toujours plus difficile. D'ailleurs, l'INSEE n'aime pas trop se penser sur ces dimensions subjectives. On le voit encore récemment sur une question d'une commission sur la satisfaction des usagers à l'égard des services publics, etc., des performances de services publics. Bon, on n'y tient pas trop parce que c'est toujours difficile. Et en plus, je ne suis pas persuadé que ce soit la science économique qui soit la mieux placée pour travailler sur ces questions. Mais ce que je veux dire derrière ça, si vous voulez, c'est que Popper disait à juste titre une idéologie, une hypothèse peut-être parfaitement idéologique. Donc une demande faite par un gouvernement, elle peut être nature très idéologique et très politique. La question est assez banale, somme toute, et assez peu surprenante. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement comment on traduit ça. C'est-à-dire quel est le travail qui est fourni ensuite pour transformer ça, effectivement, en dispositif de recherche et donc, par là même, de produire des statistiques, etc., etc. Parce qu'on peut toujours dire « oui, mais la question est politique ». OK, mais c'était quand même d'une grande banalité. Quand on travaillait... Comment ? Oui, non, mais on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème. Je me souviens à l'école des Ponts, Valizère, quand il travaillait sur le calcul économique, il ne prenait pas le fait qu'on construise une autoroute de tel endroit à tel endroit, c'était pas son problème. Par contre, il traduisait ça, lui, à travers effectivement un certain nombre de choses, et à travers des arguments scientifiques. Donc, je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, et sur lequel il faut revenir. Pour une bonne et simple raison, c'est que tu l'évoques et tu le dis à juste titre. Oui, tu me dis combien ? Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. J'étais à la fin de mon introduction. si vous voulez, là, il y a effectivement... du coup, j'ai perdu mon fil. Ça renvoie effectivement au type de savoirs qui vont être mobilisés. Ça, effectivement, on se rejoint parfaitement avec Florence, puisqu'elle le montre à travers ce qu'elle fait. On peut regretter des phénomènes d'impérialisme scientifique, mais qui s'expliquent aussi. Alors, je n'ai pas le temps de revenir dessus, mais parce que j'ai effectivement beaucoup de choses à dire sur ces questions-là, ayant pratiqué à peu près toutes ces disciplines. Alors, juste puisqu'il faut conclure, je reviendrai sur le CNIS, parce qu'elle voulait l'évoquer dans son introduction, mais elle n'a pas eu le temps, visiblement, elle non plus. Alors, quel peut être effectivement le rôle du CNIS là-dedans ? C'est que Florence parle d'espace de controverse, elle parle de débat, etc. Là, il y a effectivement quelque chose qui est qu'on peut y avoir d'abord un débat scientifique. Là, on peut regretter effectivement la force de certaines chapelles et le fait que dans les sciences sociales, en France, on soit très peu pluraliste. En France, il n'existe aucune équivalent, par exemple, de ce que j'ai connu aux États-Unis, de School of Public Policy. Ça n'existe pas, pour une simple raison, c'est que ce sont les disciplines qui comptent. Donc, si vous voulez, pour revenir sur ces questions, c'est vrai que le CNIS, quelle que soit la nature de sa taille, il a très certainement un rôle à jouer dans la mesure où il peut être un pédagogue, c'est clair, parce que les questions qui sont évoquées par Florence dans son livre, je ne dis pas qu'elles ne sont pas à mettre entre toutes les mains, c'est qu'on ne peut pas les mettre entre toutes les mains. Donc, il faut un minimum de pédagogie, etc. Il faut effectivement, il faut avoir la question de la qualité, pour revenir sur la question, la qualité des données sur lesquelles on travaille, la qualité des statistiques, des programmes de recherche, c'est quelque chose qui, effectivement, nous interpelle très directement. Et c'est en ce sens que, et au jour d'aujourd'hui, avec le fait qu'il y a une pluralité extensive à l'infini des lieux de production de données, il y a clairement un problème de régulation derrière. Alors, ce n'est pas, bien évidemment, le CNIS, mais on l'a posé lors du dernier bureau, de la dernière assemblée, notre ami Nicolas et Prokova s'était présent, la question de la régulation se pose aujourd'hui dans un univers où la statistique publique n'est devenue qu'un acteur parmi beaucoup d'autres. Ce qui pose la question, justement, de la question de l'intérêt général d'un certain nombre de données privées qu'il faudrait bien essayer de maîtriser. Donc, c'est pour ça que, bien évidemment, je pense que c'est pas on m'a invité en tant que président du CNIS, c'est pas le CNIS qui va réguler tout ça, c'est pas le CNIS qui aura une position, mais je pense que, effectivement, en dépit de la petitesse de sa taille, le CNIS a effectivement quelque chose à jouer dans ce rôle d'intermédiaire entre les usagers et les producteurs.
Merci beaucoup. Florence ne se contente pas de dire que l'indice des prix, c'est politique. Hein. Elle le démontre et dans le détail tout au long du livre. Et on a parlé de pédagogie, c'est aussi un livre pédagogique. Et moi, je suis toujours surpris, mais ravi quand les économistes font l'effort, comme elle l'a fait, de s'adresser au grand public et que ce soit compréhensible.